La vie spirituelle n'est jamais un long fleuve tranquille. La vie tout court n'est jamais un long fleuve tranquille. Confirmé, Père Marie-Laurent de la Résurrection.
Complètement.
Au cours de ces entretiens, nous avons et nous sommes revenus souvent sur cette expérience de Dieu avec ses joies, ses absences. Quelle est la fécondité de l'épreuve? Quelle est la fécondité de la nuit? Quelle est finalement la fécondité chez une mère Teresa? On a parlé de cette œuvre immense qui est connue mondialement. Ça sert à ça?
Ça peut servir à ça.
C'est un moyen?
Ça peut être un moyen.
Ça peut être
C'est-à-dire
un moyen.
Que
c'est pas forcément un moyen.
Il faut voir que quand Dieu agit en quelqu'un, du fait qu'il est Dieu, il va y avoir beaucoup d'effets bons simultanés, peut-être douloureux, mais bons simultanés. Donc on a parlé de cette dimension de transformation, purification, de transformation, et il y a toujours un effet, si on se laisse faire, il y a un effet concomitant, qui est un effet de fécondité, alors qu'on voit particulièrement, c'est sûr, avec Mère Teresa, bon, il n'y a qu'à voir son œuvre gigantesque, son rayonnement, et encore après sa mort, vous voyez, les personnes qui sont touchées par ses écrits, j'ai une bonne lecture à recommander, c'est Viens sois ma lumière, c'est les extraits de son journal. Alors c'est décapant, mais c'est dilatant quoi. On pleure, on pleure, mais c'est tellement beau. À travers cette épreuve, c'est ce journal qui a révélé cette épreuve intérieure, ces ténèbres intérieures dans lesquelles elle vivait. Mais en fait, on pleure devant la beauté. C'est très étonnant parce qu'en fait, c'est la beauté de Dieu qui se manifeste dans ces lignes-là. Et voilà. Donc si c'est une forme de fécondité. Alors, comment elle interprétait, comment elle a compris son épreuve? En fait, elle a compris, contrairement à ce qu'on pourrait croire spontanément, Mère Teresa, elle pensait que sa première mission, c'était pas auprès des Indiens, des bidonvilles, mais c'était plus profondément, c'était auprès de ceux qui, en Occident, étaient marqués par l'athéisme, ne croyaient plus en Dieu. Et les ténèbres qu'elle expérimentait avec du coup les tentations contre la foi, mais attention, elle avait une foi extraordinaire, je dirais, excusez-moi le terme un peu, mais une foi béton quoi, extraordinaire, parce qu'on ne peut pas traverser tout ça sans avoir une foi béton. Ce qu'elle vivait, alors elle avait la tentation effectivement, bon, il y a cette, par exemple cette petite anecdote qui est frappante, vous savez que là les missionnaires de la charité, donc la congrégation qu'elle a fondée, bon elles ont plusieurs heures d'adoration eucharistique par jour, donc devant Jésus
donc,
dans l'hostie.
Dimension importante de prière.
Dimension importante de prière dans la congrégation qui est très forte, et un jour il y a une sœur qui a témoigné après sa mort, qu'un jour il y a Mère Teresa, qui frappait toujours par son recueillement, on avait l'impression qu'elle était toute prière quand elle priait. Et personne ne se doutait de rien de son épreuve. Et elle tape sur l'épaule de sa sœur et puis elle dit « C'est quoi le rond blanc là qu'il y a devant sur l'autel ?» Et alors la sœur, un peu étonnée, qui ne savait pas du tout ce que vivait Mère Teresa, personne ne le savait, qui dit « Bah oui, c'est Jésus. Ah, merci ma sœur. » Voyez. Donc, en fait, elle va multiplier les actes de foi. C'est ça, son épreuve va lui faire multiplier les actes de foi. Et alors, ça va être une des sources de la fécondité. Il va y avoir, alors pour reprendre, en fait, elle expérimentait ce que vivent les gens qui sont athées. Et donc, pour elle, ça lui permettait de les rejoindre. Première fécondité. Et ça, c'est quelque chose que nous, on ne va peut-être pas expérimenter de manière aussi douloureuse, aussi forte, mais que tout le monde...
Donc, ce programme n'est pas proposé à tous.
N'est pas proposé à tous, n'ayez crainte. En même temps, c'est quelque chose où je suis sûr qu'il y a un certain nombre qui nous écoutent, qui font cette expérience-là. On voit bien que dans la souffrance, si je consens à la souffrance, si je consens à l'épreuve, je constate que je suis beaucoup plus disponible pour comprendre et pour rejoindre les autres dans leur épreuve. Si je consens à ma propre souffrance, etc., on voit peut-être que je ne comprends plus rien de ce qui m'arrive, ça c'est souvent, mais curieusement, j'ai la lumière, là vraiment c'est des expériences qu'on fait, j'ai la lumière pour comprendre et aider ceux qui sont dans la souffrance. Donc vous voyez, de compassion. Ce que une autre géante, on pourrait dire, qui est Sainte Thérèse de Lisieux, a vécu, parce qu'elle a vécu une nuit analogue. Elle dit voilà, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y en a qui n'ont effectivement pas la foi. Le Seigneur m'a fait m'asseoir à la table des pécheurs, de les rejoindre. La seule chose, c'est que la différence, Mère Teresa ou la petite Thérèse, elles vont vivre effectivement la même expérience d'athéisme, mais en gardant la foi. Et justement, et elles vont multiplier, c'est la deuxième dimension qui va expliquer la fécondité de cette nuit, c'est que si je vis cette nuit, hier on a parlé de la vertu théologale d'espérance, en fait c'est l'espérance et la foi qui sont intimement imbriquées, si la vie en y consentant et justement en sortant de moi-même par des actes de foi, Hein. Mère Teresa, elle a multiplié les actes de foi. La petite Thérèse, elle dit dans son épreuve de la nuit, j'ai jamais fait depuis quelques mois, depuis que je suis dans cette nuit, j'ai fait largement plus d'actes de foi que pendant tout le reste de ma vie, hein, pendant les 23 ans qui ont précédé. Hein. Et ça, c'est ça le nœud. Et or, à chaque fois que je fais un acte de foi, bon, l'acte de foi, c'est quelque chose d'extraordinaire, hein, qu'on ne se rend pas compte, hein, mais qui est tout de Dieu. À chaque fois que je fais un acte de foi, Dieu vient en moi. Hein, vient en moi, j'ouvre la porte à Dieu. Et donc, il va pouvoir aller visiter ceux à la table desquels je suis. Je suis à la table de l'athéisme, et ben, mais je fais cet acte de foi à la table de l'athéisme, et du coup, j'ouvre une porte entre Dieu et les athées. Et je permets au Seigneur d'aller visiter tous les athées.
Il est question d'amour, là. Hein. On parle d'acte de foi, d'acte d'espérance.
Et pourquoi je reste là ? Et pourquoi je reste là ? Et ben, par amour.
Eh oui.
Et c'est pour ça que Mère Teresa, parce qu'il y a une rencontre, voilà, hein, et que c'est en fait cette expérience.
J'ai jamais perdu de vue cette première rencontre.
Voilà, hein, j'ai jamais perdu
de Mère Teresa, voilà. Mais il y a eu cette rencontre de départ.
Exactement,
chez Mère
hein, qu'on n'a pas, on n'a pas parlé, mais c'est peut-être on pourra en parler demain.
Oui.
Hein.
Bah oui.
Mais justement, enfin cette nuit, elle va pas venir de nulle part, si vous voulez. Elle a toujours été précédée par des rencontres fortes, conscientes, sensibles, souvent. Voilà, et dans le cas de Mère Teresa, c'est extrêmement frappant, hein, pour en parler. Et du coup, bah, cet amour de Dieu que j'ai reçu d'une manière sensible, etc., qui a profondément transformé mon humanité, va faire que je vais rester là, je vais accepter, je vais consentir à l'épreuve, par amour pour ceux que je permets au Seigneur de rejoindre à travers, bon, c'est l'expérience de Mère Teresa, et qui rejoint encore aujourd'hui tellement de personnes, même qui sont si loin, même les hindous. Enfin, moi, j'étais en lisant sa vie, j'étais extrêmement frappé de la vénération que les hindous dans les bidonvilles avaient pour elle. En fait, il reconnaissait Dieu en elle, c'est ça qui est extraordinaire.
On parle de quelqu'un qui aujourd'hui est bien heureuse. Hein.
Voilà,
elle a été nommée, donc l'Église l'a reconnue bien heureuse, donc nous pouvons aussi l'invoquer. Heureuse Mère Teresa, qui a été aussi présente au cours de ces différents entretiens. Et je vous propose demain, un tout dernier entretien, on reviendra peut-être sur Mère Teresa,
ouais, hein,
quelques instants. À demain, Père Marie-Laurent de la Résurrection.